France Inter. Amélie Perrier. Le 6-9 de l'été.
Et la revue de presse est avec Julie Pietri. Bonjour Julie.
Bonjour, bonjour à tous.
Le maillot jaune du Tour de France a 100 ans aujourd'hui.
Et l'équipe vous compte ce matin l'histoire du premier homme à l'avoir endossé. Eugène Christophe, qui a vécu toute sa vie avec sa tunique jaune sur le dos, jusque dans son cercueil. Il était cet homme, surnommé le Vieux Gaulois, à Malakoff, la ville près de Paris, où il a habité toute sa vie. Vieux Gaulois parce qu'il avait de longues moustaches. Le maillot, il l'a enfilé le 19 juillet 1919, c'était dans l'arrière-salle d'un restaurant de Grenoble. Pas de podium encore, rien à voir avec le cérémonial d'aujourd'hui. Serrurier, il est finalement embauché à 41 ans par la mairie comme coursier à vélo, avec toujours ce jaune qui lui collait à la peau. Plus tard, grand-père, il simule des courses le dimanche matin avec ses petits-enfants et ses copains, imaginant une arrivée là, à tel ou tel panneau de signalisation. Il est mort à 85 ans et sa dernière volonté fut d'être enterré avec son maillot jaune. Les 100 ans de la mythique tunique, c'est la une aussi de la République des Pyrénées ce matin, forcément, puisque le Tour le fêtera, le maillot, lors de son étape à Pau aujourd'hui. Pau, le jour jaune, Béarn sous haute sécurité, titre le quotidien régional. Emmanuel Macron est attendu sur place. Un autre portrait d'homme ce matin dans le Figaro, Joseph Simoni, plus vieux pompier de France, 49 années de service à Aléria en Corse, spécialiste des feux de forêt. Il revient sur ses débuts. J'avais 16 ans. À l'époque, on partait à la guerre sans tenue, ou ces tenues, nous les achetions nous-mêmes. Il n'y avait pas de centre téléphonique. De 78 à 86, je recevais tous les appels de secours chez moi, à mon domicile. C'était ma femme qui faisait office de standardiste. Elle était dérangée toute la nuit. Une partie des pompiers est en grève, préavis déposé jusqu'au 31 août prochain. Sécheresse, canicule, grêle, leur charge de travail ne cesse d'augmenter. L'été sera périlleux, titre le Figaro. Ils demandent plus de moyens et une revalorisation de leur prime de feu.
La mort d'une fillette française de 3 ans dans le camp d'Alol en Syrie, Julie.
Dans ce camp, 80 000 personnes, dont des milliers de femmes et enfants de djihadistes, s'entassent, des Français parmi eux et cette petite fille. Luc Mathieu reste prudent dans Libération ce matin quand il évoque sa mort. Il emploie le conditionnel tant les informations sur place doivent être dures à vérifier. L'eau là-bas est contaminée, bactéries Escherichia coli, des diarrhées, la malnutrition en est aggravée. Une fillette française de 3 ans en serait donc morte il y a quelques semaines, transférée trop tard à Asaké, le plus grand hôpital de la région. Une autre enfant française est portée disparue. Une organisation internationale alerte. Si on ne règle pas le sort de ces gens, on est face à la prochaine génération de djihadistes. Quand la Russie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan rapatrient massivement leurs ressortissants, les pays occidentaux rechignent. La France choisit le cas par cas, 17 enfants ramenés, malgré l'enjeu sécuritaire. Défenseurs des droits, Commission nationale des droits de l'homme et Haut Commissariat des droits de l'homme à l'ONU se sont prononcés pour le rapatriement.
La revue de presse en France, il sera désormais possible de passer le permis de conduire en conduite accompagnée dès 17 ans.
Ce qui ne veut pas dire que vous, les jeunes, vous aurez le droit de conduire seul avant vos 18 ans. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, ne veut pas suivre l'exemple anglais sur ce point trop risqué. Information à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France et sur le net, beaucoup, lemonde.fr, Vosges Matin ou Ouest France. En Angleterre, l'exemple à ne pas suivre, donc visiblement, les jeunes pourraient bien ne plus avoir le droit de conduire la nuit. Mesure sérieusement étudiée par le ministère des Transports. Accidents trop nombreux. Ne pas conduire la nuit donc, ni avec des passagers à bord. Le temps d'être aguerri au volant, c'est une autre option envisagée et c'est à lire sur le site internet du Guardian. Encore une histoire de voiture dans le Figaro cette fois. Comment donc Kim Jong-un arrive-t-il à se procurer les Rolls, les Mercedes qu'il arbore fièrement lors de rencontres officielles? Le Conseil de sécurité de l'ONU impose au pays depuis 2006 un embargo sur les produits de luxe. Philippe Grangerot remonte la piste grâce à un rapport aux États-Unis. Deux Mercedes tracés donc, identité des acheteurs indéterminée, mais parcours complexe en partie identifié. Pays-Bas, Chine, Japon, Corée du Sud, un navire togolais qui accoste discrètement en Russie, puis enfin un avion ou plusieurs qui décollent pour la Corée du Nord, des réseaux tentaculaires qui pourraient lui servir aussi pour le nucléaire.
Démocratie au ralenti l'été prochain en France.
Parce que vos députés ne pourront pas siéger à l'Assemblée nationale de juillet à septembre 2020. La toiture fuit, elle doit être rénovée, croit savoir le Parisien. Et puisque les députés sont juste en dessous, les débats doivent être interrompus, c'est mieux. Question de sécurité, imaginez un accident lors du chantier. Un député marcheur explique, il y a eu d'abord une réflexion pour déplacer l'hémicycle, pour que les débats se tiennent ailleurs, dans un autre bâtiment. Mais non, trop compliqué, le travail en commission, lui, sera maintenu. Un autre chantier, celui de Notre-Dame, questionné dans la presse encore ce matin, car Mediapart le révélait hier. Des niveaux élevés de plomb ont été retrouvés dans des écoles autour de la cathédrale. Quand la flèche et le toit se sont écroulés, ce sont 400 tonnes de plomb qui sont parties en fumée. Et Mediapart accusait la mairie de Paris d'avoir caché des informations sur leur toxicité, d'avoir aussi omis de faire un nettoyage à fond, rapidement, de ces écoles qui n'ont même pas fermé après l'incendie. La matinale du Monde, notamment, suite ce matin. La mairie de Paris dit que tout va bien, mais elle va quand même profiter de l'été pour effectuer une opération de nettoyage renforcée. Notre-Dame est aussi dans le New York Times sur son site internet. Fascinant article multimédia et qui retrace la nuit de l'incendie et qui rappelle à quel point l'écroulement total n'était pas loin. Enfin, l'histoire d'un sexe dans Libération, peut-être le sexe le plus connu du monde, celui peint par Gustave Courbet, L'origine du monde. Alors je dis l'histoire d'un sexe, c'est plutôt l'histoire d'une femme qui est racontée ce matin dans les pages étaient du quotidien. Depuis près d'un an, le nom de Constance Kenyo a été révélé. Ce sexe pourrait bien être le sien. Née en 1832 dans l'Aisne, père inconnu, mère ouvrière, la jeune fille chevelure noire, port altier, est engagée à l'Opéra de Paris, danseuse de second rang, mais gracieuse et distinguée, décrit la presse de l'époque. Mais à 27 ans, fin de carrière, blessure, peut-être le genou. Et c'est sans doute dans le foyer de l'Opéra, alors antichambre de la prostitution, que la jeune femme rencontre les premiers hommes qui vont l'entretenir. Elle fréquente les soirées mondaines, les théâtres, goût exquis dans sa toilette, paraît-il. Elle a 34 ans quand elle pose pour Courbet. Elle s'enrichit, collectionne bouteilles de vin et objets d'art et dans sa collection, une nature morte de Courbet, fleurs, peut-être un cadeau après la séance de pause.
C'était la revue de presse de Julie Pietri. Merci à vous.